Ce n'est pas limité aux institutions internationales, ce n'est pas limité à l'ONU, mais c'est ce régime de partenariat qui s'est mis en place dans les années 90 au cours de ces grandes conférences de l'ONU et qui a établi des partenariats avec des grosses ONG internationales qui ont certaines affinités idéologiques avec les organisations internationales, aussi des entreprises, les grosses entreprises multinationales, le monde académique, etc. Donc c'est une espèce de nouveau régime politique informel qui nous gouverne de manière très effective, car les normes, les idées qui proviennent de ces milieux finissent par devenir normatifs politiquement et culturellement. Ils sont adoptés par les gouvernements, les ministères et dans la culture parce qu'ils se répandent à travers l'Internet, les médias. Et...
Vous voulez dire que ce modèle véhicule aussi un modèle politique et même économique et on pense à l'ultralibéralisme aujourd'hui, c'est un peu ça?
C'est-à-dire la gouvernance mondiale elle-même voudrait en théorie pouvoir réagir contre l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que l'ONU a voulu renforcer son autorité normative mondiale pour essayer de réagir au pouvoir du marché, paradoxalement. Mais disons que les principes philosophiques qui animent les normes onusiennes ont beaucoup d'apparenté avec un certain ultralibéralisme, paradoxalement.
Alors justement, l'Église aujourd'hui, dans tout ça, face à ce nouveau paradigme, comment peut-elle se situer justement? Quel discours peut-elle et doit-elle tenir, si tant est qu'elles doivent tenir un discours?
Alors je crois que ce qui est important pour les chrétiens, c'est de se rappeler qu'ils ont reçu un esprit de liberté. C'est-à-dire qu'ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas soumis à des normes qui leur sont imposées de l'extérieur. Ils sont libres. Le Christ leur a donné cet esprit de liberté, cet esprit filial, cet esprit de fils. Et notre devoir est à la fois un devoir de charité et d'amour, plus que jamais aujourd'hui, parce que c'est la grande attente de l'humanité, où il y a tant de souffrances dans le monde, une attente de témoignage et de rencontre d'un amour personnel. Mais il y a aussi un devoir de discernement et de ne pas se laisser entraîner par des mécanismes qui nous enfermeraient dans des schémas idéologiques qui nous empêchent de donner notre témoignage chrétien. Donc il faut garder un esprit de liberté et un grand témoignage de charité.
Vous voulez dire que le risque, le danger pour l'Église, c'est de s'enferrer dans une posture qui peut apparaître moralisante et qui devient décalée par rapport à l'urgence d'une situation concrète?
Oui, je crois qu'à notre époque, il est important de ne plus avoir de discours moralisants. Nous avons peut-être trop eu de discours moralisants dans le passé. Ce ne veut pas dire, en aucun cas, faire des compromis sur la vérité. Il ne s'agit pas de commencer à collaborer ou de devenir partenaire d'institutions qui promeuvent des programmes qui sont contraires à l'enseignement du magistère. Et on peut penser en particulier à tout le domaine de la moralité sexuelle qui est un vrai problème au niveau des organisations internationales puisque, comme on sait, tous leurs nouveaux paradigmes de santé reproductive, de gender, promeuvent une vision de l'homme, de la femme, du mariage, de la sexualité qui est contraire à l'enseignement de l'Église et à l'enseignement du Christ. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un discours moralisant d'une part, mais il ne s'agit pas non plus de faire des compromis. Mais il faut réintroduire, je pense, dans l'Église, le primat de l'amour dans la vérité.
Quand l'Église évoque justement une gouvernance mondiale, un nouveau paradigme des associations internationales qui véhiculent une idéologie, certains disent qu'il ne faut pas tomber dans la théorie du complot. Qu'est-ce que vous répondez?
Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y ait un complot, mais je pense qu'il est probablement une grâce pour l'Église de réaliser à quel point nous ont mené des décennies, si pas des siècles, de sécularisation. On s'étonne maintenant de cette apparition d'une gouvernance mondiale qui promeut des concepts qui sont profondément contraires au bien de l'homme et de la femme. Mais si nous connaissions davantage l'histoire de l'Occident depuis la Révolution française, depuis le XVIIIe siècle, on s'aperçoit que cette mise en place actuelle de cette gouvernance mondiale se prépare depuis très très longtemps. Et on peut avancer la thèse que certaines de ces conférences ont transformé en normes mondiales les objectifs de la Révolution culturelle occidentale. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette sécularisation occidentale est littéralement imposée aux pays en voie de développement et que ces pays en voie de développement sont en train de vivre des transformations culturelles, anthropologiques, politiques, similaires au parcours que nous avons connu en Occident, mais à une vitesse accélérée. Nous sommes en train de tuer en Afrique ceux qui pourraient nous sauver en Occident, c'est-à-dire leur sens du citoyen personne. Pas du citoyen individu, mais du citoyen qui reste un membre d'une communauté humaine où il y a des liens d'amour. Alors que nous devrions justement profiter des opportunités de la mondialisation pour apprendre d'eux.